Radio Prague, les informations.
La Tchéquie estime que l'adoption du budget de l'Union européenne donnera une nouvelle impulsion à l'économie tchèque. La campagne électorale dans le pays a démarré aussi à la télévision et à la radio. Les Verts allemands soutiennent le parti des Verts tchèques. L'adoption du budget de l'Union européenne pour les années 2007-2013 donnera une impulsion considérable à l'économie tchèque. C'est ainsi que Jiří Havel, vice-premier ministre tchèque, a réagi à la décision du Parlement européen. Ce mercredi, les partis et mouvements inscrits sur la liste des candidats aux prochaines élections législatives ont pu présenter leurs spots radiophoniques et télévisés. Au total, 14 heures de diffusion seront réservées à part égale à l'ensemble des partis politiques. Les coprésidents des Verts allemands Reinhard Bütikofer et Claudia Roth sont venus à Prague pour soutenir le parti des Verts tchèques. Les résultats des sondages révèlent que ce dernier parti a pour la première fois la chance réelle de franchir la barre de 5% des voix et d'entrer au Parlement. Une dizaine d'étudiants a protesté ce mercredi au centre-ville de Prague en faveur de la modification du système de paiement et de financement des bourses dites d'hébergement pratiquées par l'Université Charles. À l'occasion des célébrations du 101e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les vétérans de la brigade de renseignement et les représentants de l'armée se sont rappelés les activités de cette organisation de la résistance sous l'occupation nazie. Outre des conseillers militaires, la brigade créée il y a 67 ans comprenait des scouts et des volontaires. L'ancien recteur de l'université Charles Ivan Wilhelm a été nommé en réunion ministérielle délégué gouvernemental pour la recherche européenne. Son rôle consistera à encourager une meilleure coordination des activités de recherche. Selon le maire de Prague, Pavel Bem, la dette de la santé publique tchèque à Prague se situe autour de 10 milliards de couronnes. Une réforme serait donc le seul remède à l'état actuel des choses. Météo ce jeudi, qui est selon le calendrier tchèque le jour de fête de Natacha, le ciel demeurera couvert sur l'ensemble du territoire. Des averses pourront également apparaître. Il fera un peu plus chaud que les jours précédents, avec les températures diurnes se situant légèrement au-dessus de zéro. C'était donc le bulletin d'information présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Nous débuterons notre tour d'horizon de l'actualité par des informations économiques réjouissantes pour la République tchèque. Anna Kubišta nous amènera à une exposition du photographe Tichý Abrno. La diva de l'opéra tchèque au printemps de Prague, Magdalena Kožená, ce sera avec Václav Richter. Et Guillaume Narguet nous fournira un aperçu du championnat du monde de hockey sur glace à la veille des quarts de finale pour la Tchéquie qui sera opposée à la Russie. Veuillez passer d'agréables moments en compagnie d'une émission dont la réalisation technique revient à Jarka Fikarlova. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Jiří Havel, a devancé l'Office national des statistiques en publiant des données qui affichent un record pour la croissance de l'économie tchèque dans les trois premiers mois de l'année, 8,2%. Jiří Havel affirme « Nous allons devenir le numéro 1 en Europe ». Il est intéressant de constater que la majorité des économistes de renom sont d'accord avec lui. Cela veut dire que la Tchéquie accélère son rapprochement du niveau économique européen et que les salaires devraient effectuer un rapprochement aussi rapide, mais aussi naturellement les prix. Avant les élections législatives du début du mois de juin, cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le parti qui conduit le gouvernement, la social-démocratie. Pour le vice-président du Parti civique démocrate, leader de l'opposition de droite, Peter Nečas, cela n'entre que dans la stratégie préélectorale des sociodémocrates. En effet, les données officielles sur la croissance de l'économie tchèque ne seront publiées par l'Office national des statistiques que le 9 juin, donc après les élections. Pourtant, toute médaille présente aussi son revers. la locomotive de la croissance de l'économie tchèque est l'industrie, et en premier lieu l'industrie automobile, avec la production et les fortes exportations des usines Škoda et TPCA, auxquelles devrait encore s'ajouter le géant asiatique Hyundai, avec la signature imminente du contrat sur la construction d'une usine de production en Moravie du Nord, entre la direction et le représentant du gouvernement tchèque. Certains experts en économie mettent en garde. Cette croissance rapide, due exclusivement à la croissance du secteur industriel, 17,9% en mars, mais surtout de la branche automobile, rend l'économie tchèque des plus fragiles. Un choc pétrolier, par exemple, pourrait la déséquilibrer sérieusement. Les milieux financiers restent confiants, comme Luboš Mokraš de Česká spořitelna, caisse d'épargne, l'une des plus grosses maisons bancaires tchèques. Nos pronostics de croissance du produit intérieur brut pour le premier trimestre de l'année sont de 6,6%. Les très bons résultats du secteur industriel, en commun avec ceux du commerce extérieur, signifient que ce chiffre sera certainement dépassé. La forte croissance de l'économie tchèque est le résultat du très fort intérêt des investisseurs étrangers. Premier, les Allemands, naturel, car ce sont les voisins les plus proches. Mais deuxième, les Japonais, avec 160 sociétés présentes en Tchéquie et des investissements de l'ordre de 800 millions de dollars. Un autre signal du développement de la prospérité de l'économie tchèque. D'ici à la fin de l'année prochaine, la République tchèque ne puisera plus dans les fonds de soutien de la BRRD. Au contraire, elle contribuera au soutien de la reconstruction et du développement d'autres pays. En août dernier, nous vous avions parlé de Miroslav Tichý, né en 1926 en Moravie, et qui, découvert sur le tard, est en passe de devenir un des artistes tchèques les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle. Anna Kubišta était à Brno, au vernissage de la première rétrospective consacrée en République tchèque à ce personnage hors du commun.
Attends, je vais voir si je reconnais quelqu'un. Voilà une des remarques entendues ce mardi lors du vernissage de la toute première exposition de Miroslav Tichý dans son pays. Et pour cause, ce n'est pas tous les jours que Kyiv, petite ville tranquille de Moravie du Sud, est sous le feu des projecteurs. Alors des habitants ont fait le déplacement à Brno, au Musée des Arts, qui a organisé la rétrospective consacrée à l'œuvre unique de l'enfant terrible du pays. Un événement exceptionnel et sans exagération, car les personnes venues exprès de Kyiv pour l'occasion ne lançaient pas cette remarque par hasard. Dans les années 1960-70, Miroslav Tichý a en effet littéralement capté, avec son appareil photo fabriqué par ses soins, des visages, des figures, des silhouettes des femmes de sa ville, appuyant sur le déclencheur, sous son fameux manteau rapiécé qui ne quittait presque jamais. Tout cela avec toute la force d'une ferveur, d'aucuns diront la monomanie, et ils auront en partie raison, qui le fait tout aussi violemment rejeter et la société, et toute ambition de montrer ses photos au public, toute prétention à exposer cette œuvre pour le moins dérangeante. C'est Roman Buxbaum, psychiatre et artiste suisse, originaire de Kyiv, qui est à l'origine de la médiatisation de ses photographies en Europe de l'Ouest. Une mise en lumière qui d'ailleurs lui a valu pas mal de critiques, certains criant à la manipulation de galeries, d'autres au vol de ses œuvres. La controverse est à la mesure du personnage qu'est Tichý. Quoi qu'il en soit, la Maison des Arts de Brno a décidé de montrer cette exposition qui s'achèvera le 6 août et qui présente environ 70 photos accompagnées de peintures et de dessins, toutes ces œuvres étant issues de la collection personnelle de Buxbaum. Les admirateurs du maître regretteront cependant qu'il n'y en ait pas un peu plus. Pavel Vanchat, un des commissaires, explique que l'exposition a été conçue comme plus représentative qu'exhaustive et qu'un des objectifs premiers était de montrer Tichý au public non plus comme une curiosité, mais bel et bien comme un artiste à part entière. Parallèlement, la Galerie Morave de Brno organise une exposition appelée Artists for Tichý, Tichý for Artists, qui sera inaugurée le 19 mai et s'achèvera le 20 août. Une confrontation d'œuvres d'artistes européens avec celle du photographe solitaire Morave. De même, le 19 mai au soir, à l'occasion de la Nuit des musées, on attend la venue du compositeur Michael Nyman, qui a par exemple composé la musique du film La leçon de piano, et qui lui rendra hommage par un concerto. Enfin, la très réputée maison d'édition pragoise Torst vient de publier une monographie dont l'historien de l'art Pavel Vanchat a rédigé l'introduction. Au vernissage de ce mardi, c'est bien entendu la première personne concernée, Tichý lui-même, qui était le grand absent. Mais après tout, Diogène ne serait pas Diogène sans son tonneau. Et il en va de même pour Miroslav Tichy, qui, outre le fait qu'il ne quitte plus Kiev depuis bien longtemps, n'a cure de ses agitations et autres mondanités. Ceux qui le connaissent bien parlent de l'ironie avec laquelle il s'exprime souvent, alors ce n'est sûrement pas avec une exposition qu'il va commencer à se prendre au sérieux.
C'est devant la salle archi-comble du Théâtre National que la cantatrice tchèque Magdalena Kožená a donné deux récitals de chant dans le cadre du Festival Printemps de Prague. Václav Richter.
C'était une des rares occasions pour le public tchèque d'entendre cette mezzo-soprano qui chante désormais dans le plus grand théâtre lyrique du monde et a déjà obtenu plusieurs prix d'interprétation. Au programme du récital, il y avait d'abord une cantate basée sur le poème de Francesco Petrarca, Trionfo della morte, écrite et dédiée à Magdalena Kožená par le doyen des compositeurs tchèques Zdeněk Lukáš. La cantatrice a apprécié son œuvre.
Jeho hudba není moderní v tom smyslu, že řekněme, s ním podstatně libozvučněji než spousta skladeb, které se píší.
Sa musique n'est pas moderne dans le sens le plus strict du terme. C'est une musique beaucoup plus agréable à écouter que de nombreuses compositions qu'on écrit à l'époque actuelle. J'ai pris un grand plaisir à interpréter cette œuvre. Il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui savent bien écrire pour la voix, la musique vocale. De nombreux compositeurs modernes ont l'impression que la voix humaine est un instrument de musique et souvent ils créent des œuvres qui pose de telles difficultés au niveau de la technique vocale qu'on ne peut pas les chanter.
La seconde partie de la soirée a été consacrée à la musique de Wolfgang Amadeus Mozart, dont nous célébrons le 250e anniversaire de la naissance, accompagné de l'orchestre Prague Philharmonia, dirigé par Michel Swierczewski. Magdalena Kožená a chanté plusieurs airs d'opéra et de concert de ce compositeur. Elle s'est montrée à l'aise dans le répertoire pour soprano et on en vient à se demander quelle sera l'évolution de sa voix et de sa tessiture. Le musicologue Ivan Rummel résume l'impression de cette soirée.
Na Kožené nás zaujme především její inteligentní přístup k notové.
Ce qui nous frappe chez Magdalena Kožená, c'est son approche intelligente de la partition. Elle cherche toujours à saisir le sentiment qui est à la base d'une œuvre et qui se cache sous les paroles et la musique. Elle cherche à exprimer vraiment ce que l'auteur a mis dans son œuvre. Elle dispose d'une tessiture de 2,5 octaves. Ses graves sont cultivées sans la rudesse qui caractérise par exemple l'école vocale russe. Pour l'instant, sa voix n'a pas encore atteint sa plénitude, mais il est probable qu'elle évoluera vers le haut et nous rencontrerons Magdalena Kožená à l'avenir sur les scènes de grands théâtres dans les rôles de soprano, comme c'était le cas par exemple de la mezzo-lituanienne Violeta Urmana qui a évolué vers les rôles de soprano dramatique.
Du monde de l'opéra avec Magdalena Kožená, passons maintenant au monde du sport. Au championnat du monde de hockey sur glace, en Lettonie, la République tchèque a été défaite par les États-Unis 1-3, mardi à Riga, à l'occasion de son dernier match de groupe comptant pour les huitièmes de finale. En quart de finale, jeudi, les champions du monde en titre seront opposés à la Russie, seule équipe toujours invaincue de la compétition. Guillaume Narguet.
Avec 2 victoires contre la faible Norvège et le favori canadien, 2 matchs nuls contre la Lettonie et la Finlande, puis enfin une défaite contre les Américains traditionnellement accrocheurs, la République tchèque affiche un bilan mi-figue mi-raisin à l'issue d'une première phase de tournoi plutôt ennuyeuse malgré l'enthousiasme et l'engouement du public local. Quatrième donc au classement final de leur groupe, les joueurs de l'entraîneur Alois Adamczyk verront donc se dresser sur leur chemin l'ours russe au tour suivant. Un match crucial pour la jeune équipe tchèque, privée de la plupart de ses joueurs vedettes pour ce mondial, puisque si le vainqueur accédera aux demi-finales et pourra continuer de songer à une médaille, le vainqueur sera lui invité à faire ses valises. Mais face à une Sborna, le surnom de la sélection russe toujours imprévisible et redoutable, les Tchèques, dans lesquels personne ne croit vraiment au pays, savent que la tâche sera rude et qu'ils ne partiront pas favoris. Ils le seront d'autant moins que leur dernière sortie contre les États-Unis, qui faisait pourtant suite à une probante victoire 6-4 contre le Canada dimanche, n'a guère rassuré les observateurs. Le coach Alois Adamczyk s'est d'ailleurs voulu très réaliste dans son analyse d'après-match.
Les Américains nous ont surpris avec leur excellente défense dans la zone neutre, la zone centrale du terrain. Nous étions obligés de développer du jeu, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire et ce qui leur a permis de jouer en contre et de nous marquer 2 buts dans le premier tiers-temps suite à des erreurs individuelles de notre part. Nous avons bien mieux entamé la deuxième période en parvenant à réduire le score. J'ai alors pensé que nous étions en mesure de renverser le cours du match, mais une nouvelle erreur défensive a permis aux Américains de reprendre le large au score. Ce troisième but encaissé nous a fait très mal, car il nous fallait une victoire pour terminer premier du groupe. Un résultat nul ne nous suffisait pas pour cela. Après, avec 2 buts d'écart, j'ai senti que les joueurs abdiquaient à l'idée de revenir au score.
Après cette première défaite, sans conséquences graves, les Tchèques devront donc éviter les erreurs défensives pour inquiéter la machine russe et son armada offensive. Comme souvent, le duel Tchéquie-Russie promet d'ores et déjà beaucoup.
Alain Slemensky et l'équipe de Radio Prague ont eu le plaisir de vous présenter Faits et événements. Voici maintenant la suite de notre programme en langue française sur les ondes de Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
La Fédération mondiale des anciens combattants, qui réunit 159 organisations et plus de 27 millions de membres de 86 pays, a tenu ses assises en fin de semaine dernière à Prague. Retour sur l'événement dans cette page d'histoire. Fondée en 1950 à Paris, la Fédération regroupe en son sein des anciens combattants de tous les conflits de guerre, des victimes des déportations, des otages de guerre, ceux qui ont lutté sur le même front, ainsi que ceux qui se trouvaient dans des camps opposés. Parmi les participants venus de France, j'ai invité au micro Monsieur Robert Créange, secrétaire général de la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, et vice-président de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, pour lui demander de nous raconter son parcours exceptionnel.
Moi, je suis né en 1931. Donc j'étais trop jeune pour participer à la Seconde Guerre mondiale, mais mon père et ma mère ont été déportés à Auschwitz et ne sont pas revenus ni l'un ni l'autre. J'avais 11 ans à ce moment-là et j'ai donc considéré quand j'étais adolescent puis adulte qu'il était de mon devoir de m'investir totalement dans tout ce qui concernait la préservation de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan professionnel, j'ai d'abord été enseignant, professeur de collège, et ensuite j'étais directeur du comité d'entreprise des usines Renault à Billancourt, au moment où il y avait 40 000 travailleurs dans cette usine. Et donc, je vais beaucoup dans les lycées, dans les collèges, témoigner, raconter ce qu'était cette période pour que les jeunes d'aujourd'hui sachent ce qui s'est passé entre 1933 et 1945, pourquoi cela s'est passé et que eux-mêmes soient vigilants pour que de telles situations ne puissent plus se reproduire.
Robert Créange vivait à Paris au moment où ses parents ont été déportés. On l'écoute.
Je vivais avec mes parents dans la banlieue de Paris, à Boulogne-Billancourt. Et mon père a été, dès le début, recherché par la police française qui était au service des Allemands et par la Gestapo. Et il y avait à ce moment-là en France, je simplifie, deux zones. Au nord, une zone qui était occupée par les nazis, et au sud, une zone que l'on appelait la zone libre jusqu'en 1942. Et les personnes qui étaient recherchées essayaient de passer de la zone occupée à la zone libre, et pour cela contactaient ce que l'on appelait des passeurs, qui connaissaient très bien le terrain et qui donc faisaient passer d'une zone à l'autre. Malheureusement, mes parents sont tombés sur un passeur qui était payé par eux, mais qui de l'autre côté était payé par les nazis. Et ils ont donc été livrés aux nazis. Moi, j'avais 11 ans, ma sœur 13, et nous étions 200 mètres en avant. Ils n'ont pas fait attention à nous. Nous sommes un peu des miraculés. Voilà, donc je consacre tout mon temps à la préservation de la mémoire de cette période.
Question de savoir quel thème l'a intéressé le plus à l'Assemblée pragoise, M. Créange m'a dit.
Je suis particulièrement intéressé sur un thème qui a été abordé ce matin, qui sont les psychotraumatismes d'apparition différée. Nous avons à Paris ce que nous appelons la Fondation pour la mémoire de la déportation, et nous recevons chaque semaine un groupe de travail composé de médecins, de psychiatres, reçoit d'anciens déportés, pour voir avec eux comment ils ont vécu leur déportation, leur retour, et comment, depuis, leur vie a pu être influencée par ce qu'ils ont vécu.
La Fédération mondiale des anciens combattants réunit les anciens participants des conflits les plus divers. Monsieur Créange explique.
Oui, la FMAC, c'est son grand mérite, réunit tous les anciens combattants des différents conflits, qu'il s'agisse de la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse des opérations de l'Organisation des Nations Unies. Absolument tout le monde peut participer, les anciens alliés comme les anciens ennemis, ce qui permet effectivement d'avoir ce que l'on pourrait appeler une mémoire partagée et d'agir tous ensemble pour justement essayer de construire cette paix que nous espérons tous toujours. J'ai le souvenir que mes anciens à moi, quand ils parlaient de la Première Guerre mondiale, disaient « Ah, mais on espérait, nous, que c'était la der des der ». Et puis, il y a eu le conflit, la Seconde Guerre mondiale. Depuis, pas de conflit généralisé, mais une série de conflits qui n'arrêtent jamais. En ce moment, on pourrait parler de l'Irak et de bien d'autres encore. Et donc, je pense que le travail de la Fédération mondiale est justement d'apporter l'expérience de ceux qui ont vécu les guerres, qui ont souffert et qui donc plus qu'aucune autre personne n'est attachée à construire cette paix que nous souhaitons tous ardemment.
Au programme de l'Assemblée, il y avait également la question des soins apportés par la société aux anciens combattants.
Oui, alors ça c'est une question extrêmement importante parce que les anciens combattants ont tous, d'une façon ou d'une autre, des séquelles, des souffrances qu'ils ont vécues, qui peuvent être des séquelles physiques ou psychologiques d'ailleurs. Et la façon dont chaque pays prend cela en compte est extrêmement différente. Il y a des pays où les anciens combattants et les victimes de guerre n'ont à peu près aucun droit. Et je dois dire qu'en France, nous avons sans doute la législation la plus avancée dans ce domaine et nous essayons justement d'aider nos camarades d'autres pays à pouvoir utiliser notre expérience pour pouvoir eux-mêmes conquérir de nouveaux droits dans leurs pays respectifs.
Monsieur Créange s'est encore confié sur son souvenir de Munich.
Moi, je considère, j'ai toujours pensé, si vous voulez, que la France avait une sorte de dette envers la Tchécoslovaquie, parce que les accords de Munich signés en 1938 par Daladier et Chamberlain ont fait que nous avons totalement abandonné la Tchécoslovaquie, enfin la région des Sudètes, alors que nous avions des traités d'amitié avec vous. Et bon, je pense que l'histoire est l'histoire. Il faut assumer les périodes glorieuses de son histoire, mais aussi les périodes qui le sont moins.
C'est tout dans cette émission. Merci d'être resté avec nous. Au revoir et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.